Voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un 1er mai aux multiples revendications. Un an après la bataille contre la réforme des retraites, les syndicats avanceront aujourd'hui en ordre dispersé dans les cortèges de la fête du travail.
Benjamin Netanyahou craint d'éventuelles poursuites de la CPI, la Cour de justice internationale, qui serait en train d'enquêter autour de crimes de guerre à Gaza.
Et puis vous en parliez à l'instant Guillaume, nous entendrons la voix en français de Paul Auster à la fin de ce journal. Selon le New York Times, l'auteur de Léviathan est mort à New York à l'âge de 77 ans. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour.
Enfants et numérique, quel est le bon usage ?
Réponse à 7h15. Des revendications diverses et des syndicats chacun de leur côté. Les traditionnels défilés du 1er mai ne ressembleront pas à ceux de l'année dernière qui avaient enregistré des records d'affluence et pour cause. C'était en plein débat sur la réforme des retraites sous bannière intersyndicale. Cette année, retour, si l'on peut dire, à une certaine forme de normalité dans les slogans mais aussi les revendications sur les salaires, la paix à Gaza ou une Europe plus protectrice. Revendications qui seront nombreuses donc. Valentin Grille.
Il y a bien eu un texte intersyndical signé par la CGT, la FSU, Solidaire ou encore plusieurs organisations étudiantes, parmi lesquelles l'UNEF ou la FAGE. Trois thèmes majeurs y sont cités sous le slogan « Ni les actionnaires, ni les réactionnaires ». La précarisation d'abord avec la réforme de l'assurance chômage et la pauvreté étudiante, la paix en Ukraine et en Palestine ensuite, mais aussi l'Europe sociale où il ne faut céder ni à la finance ni au poison de l'extrême droite, préviennent les organisations. Mais elles ne feront pas front commun. L'intersyndical, ce n'est pas la nouvelle NUPES, résume un responsable. Chacun poussera donc son propre agenda en ce 1er mai. La CGT rappelant par exemple sa demande d'un SMIC à 2000 euros brut et son rejet des discriminations syndicales. La CFDT appelle de son côté à une Europe qui protège les travailleuses et les travailleurs et veut axer sa manifestation sur le thème des élections européennes à venir. Force ouvrière, à l'inverse, se refuse à la politique et va défiler pour le pouvoir d'achat et contre la réforme de l'assurance chômage. Cette question d'une prise de parti politique engendre des différends à l'échelle nationale comme locale, certains syndicats souhaitant se positionner contre le RN, quand d'autres ne veulent pas s'engager sur ce terrain. Le cortège s'annonce donc hétéroclite, d'autant que la contestation des Jeux Olympiques pourrait s'ajouter au thème déjà énoncé et que des syndicats agricoles pourraient également se mobiliser autour de leurs propres revendications. Mais le ministère de l'Intérieur attend moins de 150 000 participants, alors qu'il en recensait 800 000 l'année passée. Le signe, là encore, d'un certain retour à la normale.
Et la CGT recense plus de 265 rassemblements et manifestations. Aujourd'hui, à Paris, le cortège doit partir à 14h de la place de la République. Et puis, autre lieu, autre ambiance pour l'autre défilé traditionnel du 1er mai, celui de l'extrême droite. C'est à l'époque Jean-Marie Le Pen qui avait instauré un rassemblement à cette date en hommage à Jeanne d'Arc. Or, ces dernières années, la figure n'est plus à l'honneur au Rassemblement National. En revanche, elle l'est devenue chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Les précisions d'Antoine Marette.
À l'extrême droite, chaque parti a sa vision du 1er mai. Côté Rassemblement National, la fête de Jeanne d'Arc est devenue l'année dernière la fête de la nation, avec des discours expurgés de toute référence à la pucelle d'Orléans, comme si cette dernière rappelait de mauvais souvenirs à ceux qui voudraient oublier les défilés de crâne rasé de la période FN, le meurtre de Brahim Bourham en 1995, ou encore les excès verbaux de Jean-Marie Le Pen. Cette année à Perpignan, il sera largement question des européennes, avec notamment la présentation des 35 premiers candidats de la liste RN. Côté Reconquête, c'est tout l'inverse. Jeanne d'Arc est à l'honneur. Marion Maréchal va prendre la parole devant sa statue, dans son village de Domrémy-la-Pucelle, après une visite de sa maison natale et une cérémonie d'hommage sur le parvis de la basilique. La tête de liste du parti d'Éric Zemmour reprend le flambeau de son grand-père, pour envoyer un message aux nostalgiques du Front National et tenter de décoller dans les sondages.
De plus en plus de personnes sont envoyées dans les CRA, ces centres de rétention administrative où sont enfermés ceux qui doivent être renvoyés de France, où ils sont en situation irrégulière, on appelle cela l'éloignement. Plusieurs associations peuvent accéder à ces centres pour aider notamment les femmes et les hommes enfermés à pouvoir exercer leurs droits. 5 associations au total qui publient chaque année un rapport et constatent cette année en particulier l'augmentation du nombre de personnes placées dans ces structures. Elles étaient près de 50 000 en 2023 contre 43 500 l'année précédente. Anne Fauquemberg, la grande majorité de ces éloignements ont été effectués depuis l'outre-mer, Mayotte notamment.
28 180 personnes ont été enfermées au CRA de Mayotte en 2023, c'est-à-dire 60% du total des placements en rétention. La majorité d'entre elles ont été éloignées du fait d'un régime dérogatoire appliqué en Outre-mer. Par exemple, il n'est pas possible pour les étrangers de faire un recours suspensif, comme en métropole, explique Justine Girard. Elle est la porte-parole de la CIMAD, l'une des associations qui intervient dans les CRA.
Le fait qu'il n'existe pas de recours suspensif permet aux préfectures d'expulser justement rapidement. Les personnes peuvent faire un recours exceptionnel auprès du juge pour contester les décisions de la préfecture, mais ça ne va pas être automatique. Donc si les personnes ne font pas ce recours exceptionnel, elles peuvent être expulsées sans avoir vu de juge.
Ainsi, en 2023, 84% des personnes expulsées en Outre-mer l'ont été sans avoir vu de juge. Autre spécificité à Mayotte, le nombre d'enfants enfermés dans le CRA est près de 40 fois supérieur à celui de la métropole.
Plus de 3000 enfants ont été enfermés l'année dernière au CRA de Mayotte, ce qui est un chiffre énorme, avec des procédures et des pratiques qui sont très contestables et qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Les conséquences pour les enfants existent. Peu importe le territoire et peu importe le CRA.
La nouvelle loi sur l'immigration interdit depuis cette année l'enfermement des mineurs dans les CRA, mais à Mayotte, elle s'appliquera en 2027.
Anne Fauquemberg.
7h06 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin à New York. La police est intervenue il y a quelques heures à peine sur le campus de l'Université de Columbia.
C'était devenu l'épicentre de la mobilisation pro-palestinienne sur les campus américains. La présidente de l'université a donc demandé cette nuit à la police de déloger les manifestants qui se barricadaient dans un bâtiment. L'ensemble des manifestants a été évacué du campus, affirme ce matin les médias américains. La colère étudiante se propage depuis deux semaines dans les grandes universités, de la côte Est à celle de Californie, en passant par le Sud et le Centre. Au même moment, en visite à Jérusalem aujourd'hui, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, exhorte le Hamas à accepter la dernière proposition de trêve. Et à Benjamin Netanyahou, qu'il va rencontrer aujourd'hui, il va demander de renoncer à une offensive sur Rafah, qui semble pourtant déjà sur les rails. Le premier ministre israélien, de son côté, redoute et critique de potentielles poursuites venant de la CPI, la Cour pénale internationale, pour des faits de crimes de guerre à Gaza. Ces accusations concernent également son ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée israélienne. Elles porteraient sur le fait que les trois responsables auraient volontairement provoqué une famine en empêchant l'aide humanitaire d'arriver dans la bande de Gaza. Les précisions de Valérie Crova.
En Israël et aux États-Unis, l'hypothèse d'un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou est prise très au sérieux. Le Premier ministre a pris les devants. La menace d'arrêter des responsables de la seule démocratie du Moyen-Orient créerait un dangereux précédent, a-t-il écrit récemment sur X, dénotant une réelle inquiétude. Yohann Soufi est avocat spécialiste du droit international.
Oui, il a raison d'être inquiet parce que une fois qu'un mandat d'arrêt est délivré par la Cour pénale internationale, les 124 États qui sont membres aujourd'hui de la Cour ont l'obligation juridique d'arrêter les individus à partir du moment où ils posent le pied sur leur territoire. C'est exactement la même chose pour le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour les crimes commis en Ukraine.
Benjamin Netanyahou serait contraint de limiter ses déplacements, comme Vladimir Poutine depuis mars 2023, à l'exception des pays qui n'ont pas ratifié le traité fondateur de la CPI. C'est aussi le cas d'Israël et de son allié américain, qui réfute la compétence de la Cour à délivrer des mandats d'arrêt. Mandats qui seraient pourtant sur le point d'être émis.
Les mandats d'arrêt sont imminents. On parle plutôt d'une question de jour.
Le procureur de la CPI devrait de la même manière lancer des mandats d'arrêt contre les responsables du Hamas qui ont organisé les attaques du 7 octobre.
En Géorgie, des manifestants pro-européens ont érigé des barricades devant le Parlement ce matin dans la capitale, Tbilissi. Après avoir reçu des tirs de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc de la police, qui a attaqué en outre plusieurs journalistes clairement identifiés comme tels, ce pays du Caucase et de la mer Noire est en proie à des manifestations massives depuis le 9 avril, après que le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a réintroduit un projet de loi sur l'influence étrangère jugée liberticide et pro-russe, et qui pourrait, s'il était adopté, doucher les espoirs d'une partie de la population d'adhérer à l'Union européenne. Un député président du parti d'opposition de l'ex-président emprisonné, Saakashvili, a été violemment battu et a dû recevoir des soins. C'est un changement presque culturel. La Pologne facilite dès aujourd'hui l'accès à la pilule du lendemain. Il n'y a pas si longtemps, le pays restreignait gravement le droit à l'avortement et les droits des femmes en général, avant que la gauche ne revienne au pouvoir et sur ses restrictions. À partir d'aujourd'hui, donc, la pilule du lendemain est disponible en pharmacie, sans ordonnance du médecin, et à partir de 15 ans. En revanche, il faudra une ordonnance en pharmacie. Et la tâche pourrait être plus compliquée que prévu, la correspondance de Martin Chabal.
Le changement de règle est passé un peu inaperçu en Pologne. Daria a 16 ans et est soulagée par cette nouvelle.
Vous m'apprenez qu'elle est disponible à partir d'aujourd'hui. C'est un grand pas en avant pour les droits des femmes. C'est formidable.
Elle peut maintenant demander une pilule du lendemain sans avoir à prendre rendez-vous chez le médecin avant. Elle devra simplement répondre à un questionnaire pédagogique posé en pharmacie.
Si j'en ai besoin, je l'utiliserai. Parce qu'à mon âge, si je ne veux pas être enceinte, ça me sera utile.
Mais dans les pharmacies, la nouvelle règle est encore floue. On ne sait pas encore quelles questions poser, à qui refuser l'ordonnance, à qui l'autoriser. Beata ne se sent pas de faire ses prescriptions.
Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne me considère pas comme un médecin, donc je ne suis pas prête à prescrire un tel médicament.
D'autres pharmacies attendent encore le feu vert de l'Ordre national des pharmaciens. Mais il semble assez fermé sur la question. Il a d'ailleurs déjà annoncé s'opposer à la délivrance de pilules du lendemain aux mineurs non accompagnés par un représentant légal.
Martin Chabal. Enfin, c'est un géant de la littérature américaine qui nous a quitté. Paul Auster, 77 ans, est mort d'un cancer à Brooklyn, le quartier new-yorkais, où il a presque toujours vécu. C'est une information donnée par le New York Times cette nuit. Romancier, mais également scénariste et réalisateur, il avait commencé à être connu dans les années 80. Ses œuvres majeures, Moon Palace, Léviathan ou la trilogie new-yorkaise, explorent le hasard, la contingence, le rapport à l'argent ou la perte et l'errance. Il était aussi poète, dramaturge, essayiste et francophile. Dans une masterclass enregistrée pour France Culture en janvier 2018, l'auteur new-yorkais dévoilait son parcours à l'occasion de la parution de son roman 43-21. Au micro d'Arnaud Laporte, il se rappelait de la première fois où à 9 ans, il avait été appelé par l'écriture. Écoutez-le.
J'ai commencé à écrire des poèmes et des récits quand j'avais 9 ans. Je me souviens très bien une journée en avril. C'était le premier jour du printemps, l'air était doux, j'étais rempli d'une joie. Tout d'un coup, j'avais une inspiration d'écrire un poème. J'ai acheté un petit carnet et un crayon, et puis je suis rentré dans un parc public, entouré de l'herbe et des arbres, et j'ai écrit mon poème sur le printemps. Bon, même si c'était horrible, je crois que les premières lignes en anglais étaient quelque chose comme « Spring is here, give a cheer », des choses comme ça. C'est même pire que les cartes qu'on peut acheter. De toute façon, la sensation d'écrire m'a donné une nouvelle expérience d'être plus connecté aux choses autour de moi. C'était une sorte de révélation.
On reviendra sur la vie et l'œuvre de Paul Auster dans le journal de 8 heures. Le temps de ce 1er mai, des pluies de la Provence à la Normandie en passant par le Massif central et le centre, plus lumineux sur le nord-est. Ailleurs, le ciel sera très nuageux en général. Grosse dégradation prévue ce soir. 14 départements vont être placés en vigilance orange pour orage, de la Marne en passant par l'Oise, la Somme et l'Aisne, et tous les départements d'Île-de-France. Les températures minimales, 8 à 12 degrés en général ce matin, 13 à 25 cet après-midi avec des pointes à 26 ou 27 en Alsace. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin, avec la question du jour de Marguerite Caton dans quelques secondes. Enfants et numérique, quel est le bon usage? Alors vraiment, je ne comprends pas du tout l'intérêt de cette question.